Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
C'est peut-être simplement l'histoire d'une œuvre d'art tombée dans l'oubli et de son auteur, artiste à la notoriété égarée, à tort dans le passé, écarté injustement du regard du présent. Non, c'est bien plus. Car il s'agit aussi de mémoires bafouées, de secrets de famille, de clés de l'avenir dans les méandres du passé. On y parle de spoliation au pluriel, de cette vaste entreprise de brigandage par les nazis sous l'occupation qui fit acheminer en Allemagne des œuvres d'art dérobées partout en Europe avec le projet gigantesque de créer le musée du Führer pour leur soi-disante race supérieure. Au-delà, on y découvre un plaidoyer pour le devoir impératif de transmission auprès de la jeunesse et pour une réhabilitation des œuvres d'art, notamment dans leur dimension spirituelle. C'est tout cela à la fois, sous la forme d'un polar sans mort, avec comme toile de fond Toulouse et l'Occitanie. Laissez-vous embarquer dans le tourbillon d'une enquête palpitante, dans le milieu des pisteurs d'œuvres d'art, à laquelle nous convie Francis Pornon dans son dernier ouvrage « Spoliation » paru en 2023 chez TDO Éditions. Bonjour Francis Pornon.
Bonjour Philippe.
Je salue nos fidèles auditeurs et je leur rappelle qu'ils peuvent réagir à cette émission sur notre site, qui peuvent la retrouver sur tous les podcasts dignes de ce nom sur notre site internet et sur toutes les grandes plateformes numériques. Francis Pornon, première question. Est-il facile, aisé de naviguer entre la fiction et la réalité dans un roman qui met en scène des figures historiques?
Oui, ça fait trois difficultés en quelque sorte. La fiction, la réalité et l'histoire. Ben, en réalité, on dit quelquefois que l'histoire est faite aussi de fiction. On construit un récit en fonction de ses options, de ses connaissances, de ses choix. Et un roman historique, c'est fait d'une partie de réalité. Je dis qu'on travaille à partir d'un canevas de faits avérés. Et puis, il convient de tirer le fil de tout cela. Et bien souvent, on fait aussi des hypothèses. Je citais notamment l'histoire de la dame de Toulouse, Azalaïs, qui, après une aventure avec le roi d'Aragon, accouche, quelques mois après bien sûr, d'un enfant. Certains historiens disent qu'elle s'est décidée à donner un héritier à son mari, le vicomte de Carcassonne, 15 ans ou 17 ans, je ne sais plus, après le mariage. Bon, on peut émettre l'hypothèse que l'aventure avec le roi d'Aragon s'est soldée donc par cet enfant-là. Voilà. Donc, j'ai pris cet exemple pour qu'on voit qu'il y a toujours une place pour ce qu'on appelle la fiction, qui est finalement peut-être l'essentiel du roman. Sinon, sans fiction, eh bien, on établit une collection de faits connus, et c'est tout.
Ce qui peut signifier que finalement, l'histoire avec un grand H se marie bien avec les histoires.
Mais oui, voilà. Mais oui, bien sûr. Et l'histoire n'est pas faite que d'une collection de faits, bien sûr.
Alors Francis Pornon, je me demandais même, en préparant cette émission, si c'était nécessaire de vous présenter sur la place toulousaine. Vous êtes né dans l'Aude, à Limoux. Vous avez fait l'école normale supérieure d'instituteur et vous avez étudié à l'université à Toulouse. J'ai retenu que vous aviez vécu en Algérie et en Auvergne. En Algérie, vous viviez où ?
Je vivais dans l'ex-Bougie, qui s'appelle aujourd'hui Béjaïa, quelques années après l'indépendance. Non. C'est déjà un peu loin. D'accord.
Alors, vous avez fait pas mal de résidences artistiques à Vénissieux, dans la Vienne, dans l'Aude, et vous avez opéré certaines interventions à l'étranger, notamment en Espagne et en Algérie, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et ces interventions, en quoi elles consistaient ?
Alors, c'est le Centre National du Livre qui subventionne ce genre de démarche. et qui s'appuie en général sur une demande et une assistance locale. Si une commune ou une structure souhaite avoir un écrivain en résidence et que cette résidence est approuvée par le Centre National du Livre, il est logé par une commune, par la structure, et donc il accomplit un travail qui, pour les deux tiers, si les choses n'ont pas changé, hein, pour les deux tiers sont sa propre écriture, et pour un tiers, il doit des interventions, des animations sur le tas scolaire ou envers d'autres publics.
Voilà, ce qui constitue donc des compétences supplémentaires à ajouter à votre pratique de l'écriture.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais c'est qui est la partie peut-être la plus originale et la plus intéressante. Et en même temps, ce genre de démarche a pour le but de donner du temps à l'écrivain qui n'est pas obligé pendant ce temps-là d'accomplir un autre travail rémunéré. C'est une institution très intéressante. J'espère qu'elle va perdurer.
Souhaitons-le. Alors, Francis Pannon, j'aurais peut-être une question un peu basique à vous poser. La qualité étant bien entendu plus importante que la quantité, mais est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur des livres que vous avez publiés ?
En nombre ?
En nombre.
Je pense que si on compte aussi les toutes petites publications, hein, on tourne autour de la centaine, je pense, voilà. Pas loin. Maintenant, s'agissant des romans qui sont des œuvres plus consistantes et exigeant plus de travail, je crois que j'en suis au 16e roman paru.
Voilà, donc ça donne la dimension et le poids de votre œuvre.
Et ça donne aussi, excusez-moi de vous interrompre, il y a une sorte de distorsion entre la notoriété et la quantité, du moins, sans parler de la qualité de l'œuvre, de ce qui est produit. Puisque qui me connaît, bon, à Toulouse un peu, mais sinon je fais partie de la très grande majorité des écrivains qui, n'étant pas médiatisés nationalement, internationalement, restent très méconnus.
Voilà. Et vous avez donc produit des romans historiques, des essais, des poèmes, des reportages, des carnets de route, des polars, des pièces de théâtre, des chansons, des romans noirs. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes éclectique ou est-ce qu'il y a un point commun entre ces différents types d'ouvrages que vous avez publiés ?
Le point commun, ça pourrait être l'écriture, la forme, la qualité de l'écriture. Je suis parti de la poésie, qui, à mon avis, est l'essence, hein, de toute littérature. Et le problème est que la poésie, aujourd'hui, il n'y a pas de marché. Et il y a très peu d'autres façons de la connaître, mis à part dans les milieux scolaires peut-être, dans diverses animations comme celle que j'évoquais pour le Centre National du Livre. Et donc, on sent très vite la nécessité de passer à d'autres formes d'art, d'autres formes de publication, mais en général, j'écris un roman comme si j'écrivais un poème, c'est-à-dire avec le même souci de la forme. Et d'ailleurs, dans ce livre-là, comme je vous le signalais, il n'y a pas une tentative d'en faire un poème, bien sûr, mais il y a quand même un souci formel qui est de faire narrer chaque chapitre par un des quatre protagonistes. Et c'est-à-dire fort différemment, en soignant un petit peu comme on ferait en théâtre les différences, mais en même temps, il s'agit proprement d'un travail d'écriture.
Tout à fait, on va y revenir d'ailleurs parce que c'est très intéressant et au départ peut-être un petit peu désorientant de voir, tiens, les têtes de chapitre, c'est les prénoms des personnages, on ne sait pas trop où on va, mais on comprend très vite. Naturellement, il y a une préoccupation chez vous qui est relative à l'Occitanie, à l'histoire de l'Occitanie et à ce qu'on pourrait appeler la grande histoire de la fine amour. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui est même un peu récurrent dans vos ouvrages. Et alors, vous êtes tombé comment dans cette histoire de la fine amour?
J'allais le dire, je l'ai sucé à la mamelle grâce à mon père. Mon père, qui était né à Limoux, d'un père tout à fait étranger, on va dire, à l'époque, un père bourguignon, mais qui s'est complètement passionné pour la culture occitane à un moment où, si vous voulez, c'était pas les années post-68 où il y a eu un grand engouement pour l'Occitanie, mais c'était le précédent engouement, l'époque de la libération. C'est à ce moment-là que des résistants comme René Nelly et d'autres ont Zara, etc., dont mon père était secrétaire d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils ont fondé l'Institut d'études occitanes et il y a eu un grand mouvement d'intérêt avec le Carcassonnais, Jean Bousquet, etc. Moi, j'étais petit garçon, tout petit garçon, un peu quand j'entendais mon père en parler, et ça m'intéressait qu'à moitié. Mais c'est resté marqué, il faut croire, puisque des décennies après, tout d'un coup, j'ai senti la nécessité de consacrer au moins une bonne décennie et voire plus à la connaissance de cette période, qui est une période absolument extraordinaire, tellement méconnue, tellement injustement méconnue, où l'Occitanie a dominé culturellement, voire aussi un peu politiquement, l'Europe, toute l'Europe de l'Ouest en tout cas. On chantait des chansons, des chants occitans dans tous les châteaux d'Europe de l'Ouest, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne. Tout ça, c'est très méconnu. Et puis, le contenu aussi, l'amour courtois, c'est-à-dire l'amour moderne, l'amour tel qu'on le connaît, l'amour respect. Si on regarde chez les Grecs, chez les Romains, l'amour, c'est pas ça, pas du tout. Hein. Voire même chez les Grecs, aujourd'hui, ils finiraient devant les tribunaux, je pense. Alors, c'est une période absolument fondamentale pour nous, et tellement méconnu que ça valait bien quelques romans. Voilà.
Très bien, donc, et on le sent parfaitement filigrane dans votre dernier roman Spoliation, dont on parle aujourd'hui. Alors, vous avez aussi publié récemment, et avant Spoliation, je pense, un petit guide sur Toulouse, qui s'appelle Petit secret et grande histoire, avec un sous-titre, si on peut dire, Guide du promeneur curieux. Alors, quand je dis un petit guide, c'est pas vraiment le mot exact. C'est un guide qui est extrêmement bien documenté, et c'est un guide qui est beaucoup d'illustrations, mais en revanche, ce qu'on trouve moins souvent dans les guides, c'est qu'il y a du texte, et du texte profond, du texte pédagogique, éducatif. Alors, comment vous est venue l'idée de faire ce guide?
L'idée est venue par une sorte de ricochet. J'avais proposé un autre projet aux éditions Sud-Ouest, sachant que ça pouvait les intéresser, quelque chose touchant le Sud, avec des amies dessinatrices. Et les éditions Sud-Ouest, qui sont majeures dominatrices. Oui, c'est le cas. L'éditeur domine toujours énormément l'auteur. Et elle m'a dit, ah ben, je prends pas votre projet, mais par contre j'en ai un autre pour vous. J'ai d'abord un peu réfléchi, et puis je me suis dit, ça vaut mieux que rien. Et comme les copines dessinatrices ont été partantes aussi, tout est parti de là. Nous avons fait, c'était en plein Covid d'ailleurs, nous avons fait des balades à Toulouse quand c'était possible, avec les autorisations qu'il fallait, ou dans les créneaux où c'était possible. Et seulement, évidemment, j'ai voulu faire un guide subjectif, un guide presque engagé, on pourrait dire, au sens large du terme, hein, avec l'engagement du cœur. Et il en est ressorti ceci, c'est-à-dire un circuit dans le centre de Toulouse, limité, sinon il aurait fallu 10 ou 20 volumes, hein, bien sûr, mais qui en général plaît assez bien, parce qu'il tranche sur les autres guides, naturellement.
Voilà, il y a une grande différence avec les autres guides, c'est parfaitement bien illustré à la fois par des photos et par des dessins, et je le répète, au niveau des textes, on apprend beaucoup de choses sur Toulouse. Alors nous en parlons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, effectivement, mais aussi parce que finalement vous êtes un très bon responsable marketing, si on peut dire, puisque à travers le récit de spoliation, vous faites référence plusieurs fois à ce petit guide du promeneur curieux comme un clin d'œil au lecteur qui connaîtrait votre guide, et s'il ne le connaît pas, espérons d'ailleurs qu'il ira vers ce guide pour le découvrir. Alors, vous êtes, donc on l'a dit, auteur de nombreux ouvrages, et vous avez fait dans la catégorie polar, notamment vous avez publié Les Mystères de Toulouse en 2020, et j'ai remarqué, on aura l'occasion d'y revenir aussi, que dans ce livre, il y a une différence d'âge entre les personnages, entre Fleur et Renate Saint-Hilaire, par exemple, et qu'il y a déjà, enfin, aussi, une description et des allusions appuyées sur Toulouse et la culture occitane. Donc, on sent que ce sont des thèmes qui vous tiennent à cœur. Et je voulais vous poser une question, c'est-à-dire ce biais de personnages avec une grande différence d'âge, pour quelles raisons vous y revenez ?
C'est une bonne question que je pourrais me poser à moi-même aussi. Que dire ? Franchement, je suis un peu pris de court. Je ne me suis pas vraiment rendu compte de cela en l'écrivant. Il faut croire que ça a une importance. Moi-même, en prenant de l'âge, il m'arrive naturellement de regarder dans les générations plus jeunes, hein, et peut-être d'espérer qu'elles me regardent aussi, parce que sinon, c'est ce que je suis en train d'écrire actuellement, c'est d'ailleurs assez difficile à écrire et à bien traiter. En prenant la retraite, on n'est plus, comment dirais-je, on n'est plus considéré par ce qu'on attend de soi dans un métier, dans une profession. Restent des engagements, des passions, pour avoir l'impression de servir à quelque chose et à quelqu'un, d'être considéré par quelqu'un. Mais je pense que c'est une des grandes angoisses de la vieillesse que de se demander si on reste intéressant, visible, ou est-ce qu'on est devenu invisible. Ça doit être sans doute à quelque chose comme ça que ça renvoie.
Vaste question, et c'est vrai que à travers l'écriture vient forcément du profond, c'est clair. Je vous propose un petit peu de musique maintenant.
J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Ils se contentaient de si peu, ils avaient si peu de colère. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales, comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, vos pierres tendres tout usées et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble. Le malheur au malheur ressemble, il est profond, profond, profond. Vous voudriez au ciel bleu croire, je le connais ce sentiment. J'y crois aussi moi par moment, comme l'alouette au miroir. J'y crois parfois, je vous l'avoue, à n'en pas croire mes oreilles. Ah, je suis bien votre pareil. Ah, je suis bien pareil à vous. À vous comme les grains de sable, comme le sang toujours versé, comme les doigts toujours blessés. Ah, je suis bien votre semblable. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autre moi-même. Mais les mots courants noirs je sème, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin sans savoir ce que dit ma bouche.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie de Francis Pornon pour son ouvrage Spoliation, paru en 2023, je le rappelle, chez TDO Éditions. Francis Pornon, dites-nous ce que nous venons d'écouter.
Je crois que ça s'appelle J'entends, j'entends, c'est chanté par Jean Ferrat. C'est un poème d'Aragon tiré, sauf erreur, des yeux d'Elsa. Je l'ai choisi parce que le couple Ferrat-Aragon, qui est un couple peut-être un peu, comment dirais-je, pas très fidèle, parce que Aragon a été chanté par tellement de chanteurs, à juste titre, Léo Ferré entre autres et bien d'autres. C'est quelque chose de passionnant et de très français, je trouve, que une chanson à texte des époques déjà dépassées peut-être se servait de poèmes de grands poètes comme tel Aragon et un certain nombre d'autres. Je trouve que c'est très fort et ça remet un peu la poésie à sa place, la même place que chez les troubadours d'ailleurs, où la poésie était chantée. Alors il y a deux façons peut-être de concevoir la poésie. Il y a une poésie de laboratoire, uniquement écrite, mais moi je suis plutôt amateur et partisan de la poésie dite, comme elle le fut à l'origine, dit-on, chez les Grecs, antiques, les Arabes, etc. Et surtout chez les troubadours.
Alors Francis Pornon, comment on en vient à écrire un roman qui traite de la spoliation? Quel est le cheminement?
Je ne suis pas parti de l'idée de spoliation, mais je suis parti de l'idée de... d'oubli, ce qui est une forme de spoliation quand l'oubli est généralisé. Lorsque j'étais petit, ma mère me conduisait au théâtre du Capitole, parfois en prenant les places les moins chères, celles du paradis, je crois, ou de l'amphithéâtre tout à fait en haut, où on voyait parfois pas très bien, mais on entendait pas mal. Et je me souvenais de très grandes tapisseries qui ornait, je crois, le fumoir ou le bar, enfin. Ces tapisseries n'y sont plus, on me l'a fait remarquer. Et certaines personnes m'ont dit, c'est quand même scandaleux, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. C'était des tapisseries de Marc Saint-Saëns, enfin tissées par les ateliers de Montluçon. D'Aubusson, pardon, les ateliers Tabar, mais à partir de carton, comme on fait toujours avec la tapisserie moderne. Il y a quelque chose de très injuste, parce que avec l'URSA, Saint-Saëns fut un des grands tapissiers modernes, reconnu et apprécié comme tel, et je me suis dit, alors là, j'ai une sorte de, comment dirais-je, n'étant pas très connu, je me permets d'être un petit peu insoumis, parfois, en matière artistique, littéraire ou culturelle. Et j'ai eu envie de faire reconnaître, d'aller sortir J'étais bien incapable d'aller sortir ces tapisseries de là où elles étaient parce que je ne savais pas où, mais essayer de ressortir sa mémoire, en tout cas. Donc je suis parti sur cette idée-là pour découvrir quand même cette grande affaire qui a été la spoliation d'œuvres d'art pendant l'occupation par les nazis et puis aussi leurs affidés, hein, les collaborateurs qui, pour certains, ont fait la même chose. Il s'agissait d'une énorme entreprise organisée de manière tout à fait légale et au grand jour par des plénipotentiaires nazis qui allaient rafler non seulement chez les juifs, bien sûr, chez les juifs, mais aussi chez d'autres gens, soit suspects d'être révolutionnaires, anti-allemands, etc., d'aller rafler des tas d'œuvres d'art pour essayer de constituer un grand musée, vous l'avez dit, un grand musée pour Hitler. Ce qui est quand même un peu fort, un peu paradoxal, puisque il raflait comme précieuses des œuvres d'art qu'il cataloguait de dégénérés. Hein, il n'était pas une contradiction près, il faut croire, hélas.
Et alors donc, c'est à travers cette histoire de spoliation des œuvres d'art qui appartenaient à la France, qui étaient dans les musées français, comme support la fameuse œuvre, la tapisserie, le Verso de Saint-Saëns. Et vous avez ajouté une autre dimension en termes de spoliation dans ce roman. C'est un petit peu ce qu'on pourrait caractériser la spoliation du passé, la spoliation de la famille, du souvenir. Alors, c'est un peu c'est l'affaire du personnage principal. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Diana et sur ce ressenti en termes de spoliation.
Exactement. L'idée m'est venue en écoutant une jeune femme un jour qui disait dans le grenier de mes parents il y a des tas de trucs, mais quand ils seront morts j'enverrai tout ça à la benne et comme ça au moins on n'en parlera plus. Et je me suis dit, mais certes, il y a beaucoup de choses à jeter dans les greniers, mais il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui vont faire défaut si on les jette, et ça risque, si c'est multiplié un petit peu entre toutes les familles, ça risque d'être une catastrophe, que la perte d'un passé, et la perte de témoignages, de reste d'un passé. Donc, j'ai construit ce personnage de Diana ainsi, au début. Elle ne veut pas entendre parler de ce que son père conservait dans son grenier. Or, là, c'est un petit peu le coup de pouce de la fiction. Et elle est contactée par un pisteur, entre guillemets, c'est-à-dire une sorte de chasseur de primes qui fait profession de dénicher des héritiers de personnes spoliées dont les œuvres d'art ont été raflées pour les retrouver et percevoir sa dîme sur le dédommagement. Voilà. Elle est contactée par je fais court, et du coup, elle se dit, y a de l'argent à gagner. Comme elle reprend des études, elle a besoin d'argent. Et elle se trouve, malgré elle, à aller fouiller dans le grenier.
Dans le passé. Alors, à sa décharge, on apprend au cours du roman qu'il y a un secret de famille, qu'elle a été un peu coupée aussi de son passé, son père aussi. Donc, c'est quelque chose que l'on peut justifier. Je veux dire qu'on n'est pas uniquement dans une question de générationnelle qui aurait complètement oublié les précédentes. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit en termes de pisteur d'œuvres d'art, ce métier-là que vous venez de décrire s'exerce quand même dans le cadre d'un système institutionnelle en France, puisqu'il existe une commission qui s'appelle la commission de récupération artistique, qui a été créée donc exactement le 24 novembre 1944, et qu'il existe également, il y a beaucoup de commissions en France, la commission pour l'indemnisation des victimes de la spoliation, et qu'à ce titre-là, ce sont des administrations vis-à-vis desquelles on doit faire des démarches pour récupérer des œuvres d'art et qui sont des interlocuteurs justement de ces pisteurs d'œuvres d'art.
Exactement, oui. Si vous voulez, le processus de restitution ou d'indemnisation des descendants de personnes spoliées est tout à fait légal, contrôlé. Normalement, il ne peut pas, il ne doit pas, en tout cas, y avoir de bavure. Ça a été créé forcément après la guerre. Le besoin s'est fait ressentir d'essayer de retrouver les propriétaires ou leurs descendants d'œuvres qui étaient rapatriées d'Allemagne, par exemple. Il y en avait tout un tas, puisqu'en Allemagne, on en avait caché, c'est assez compliqué, on en avait caché dans divers lieux, y compris certaines mines, etc. Bon. D'autre part, c'est une question de, comment dirais-je, à la fois de morale et de justice, que d'entamer de tels processus, mais c'est un peu long. C'est un peu long, et aujourd'hui, il reste encore, je ne me souviens plus combien, plus d'un millier, voire plusieurs milliers peut-être, d'œuvres qui sont en déshérence, qui n'ont pas été réattribuées.
Ni même réclamées, donc.
Ouais. Et ni même réclamées, ouais, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Alors, ce chiffre est assez spectaculaire. Et alors, ce que vous avez abordé, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est le fait que le pivot des démarches en termes de restitution, c'est le fait de pouvoir... c'est le processus de filiation, c'est-à-dire il faut pouvoir prouver que ce sont ses parents, ses arrière-grands-parents, etc., etc., qui étaient à l'époque propriétaires de ses œuvres. Et que c'est un élément sur lequel j'insiste, parce que c'est assez original, mais c'est surtout, ça sous-tend la trame de votre roman, puisqu'effectivement, toute l'histoire va contribuer à savoir si Diana va pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de ses démarches, démarches, vous avez précisé, dont elle n'aurait jamais eu l'idée si elle n'avait pas été sollicitée.
Exactement, oui. Là, on touche à la spoliation de la filiation, en quelque sorte. Il est bien connu que les immigrés ou les enfants d'immigrés, après le processus ou parallèlement au processus d'intégration, se hâtent bien souvent d'oublier leurs origines. Et Diana est dans ce cas. Or, elle va être conduite à remonter la filière peu à peu, qui est une filière un peu compliquée, un peu riche d'enseignements sur l'histoire aussi, puisqu'on passe par la guerre d'Espagne, ce qui a suivi la guerre d'Espagne, c'est-à-dire l'exil en France pour beaucoup d'Espagnols républicains, mais une partie au Mexique aussi. Bref, on remonte un peu cette chaîne que, a priori, Diana n'aurait pas voulu remonter.
Oui, il a fallu qu'elle soit motivée par des tiers.
Exactement.
Hein, tout à fait. Bien, nous allons revenir à Diana. Vous nous lirez un petit extrait qui dépeint un petit peu son caractère. Mais à nouveau, musique.
Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si prétenu, et tant d'aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Des amis que vent importe et qu'ils vantaient devant ma porte. les importants. Avec le temps qu'arbre de feuilles, quand il ne reste le branche-feuille, que n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, l'amour est mort. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mise en honte, en quelle manière. Sont mes amis devenus.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre conversation avec Francis Pornon, auteur de Spoliation, paru en 2023, je le rappelle, chez TDO Éditions. Francis Pornon, cette musique, elle s'insère de quelle manière dans votre écrit ?
John Baez évoque ici un poète français, ancien. On est un petit peu dans une démarche similaire hein, à celle de Jean Ferrat, Léo Ferré et tant d'autres qui chantent de la poésie profondément, du texte costaud, je dirais, plutôt que des bluettes dont on a, hélas, un peu trop les oreilles rebattues.
Voilà, donc les auditeurs auront compris que cette émission est vraiment sous-tendue et élevée par la poésie, en termes d'écriture et en termes de musique. Donc. Alors revenons à Diana. Alors Diana, c'est une jeune personne qui a à peine la trentaine.
C'est ça.
Et on peut peut-être dès maintenant revenir à ce qu'on disait au début, c'est que l'originalité de ce roman, c'est que chaque chapitre porte le prénom d'un personnage et que toute l'histoire va être contée chapitre après chapitre, où on aura la version, les yeux, le ressenti et le sentiment de chacun des personnages avec leur expérience et avec leur manière de réagir. Alors on va commencer par Diana. Juste avant, je voulais vous poser une question. C'est effectivement dans le langage que vous lui donnez, on voit qu'on dirait qu'elle fait partie des Jones. On se demande même si elle n'est pas plus Jones que Jones, parce qu'il y a des fois c'est difficile. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. Je me suis dit, bon, c'est sûr, Francis Pornon, il aime bien faire de la fiction. Mais à un moment donné, Albert lui parle des Catalans, de la culture catalane, de la langue de la Catalogne. Et elle, d'un seul coup, vivant à Toulouse quand même, ayant fait des études à la fac, elle dit, je ne connais pas le catalan. Et elle rajoute même, je crois, de mémoire, mais c'est quoi ? C'est un patois. Alors là, vous lui avez taillé un costard, si on peut dire.
Oui, mais je pense que c'est tout à fait plausible. Je pense qu'elle fait partie de la grande majorité des jeunes d'aujourd'hui qui ignorent tout des langues régionales qui composent la France. Alors il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Catalogne en France et pas beaucoup de Catalans. Mais, vous savez, aujourd'hui, pour certains jeunes, parler français, c'est déjà extraordinaire de ne pas parler anglais. Parler français, c'est déjà très bien. Donc, on ne peut pas leur demander de connaître les langues régionales. Hélas. Hélas, parce que là, il y a eu un problème en France. Je crois que la Révolution s'est trompée, mais ça a commencé avant la Révolution. On a tenté d'éliminer les langues régionales. Et avec les langues, les cultures. Ça nous conduirait peut-être un peu loin de gloser là-dessus, mais Mais c'est important. Je crois que... Oui, je comprends que ça vous ait frappé, mais parce que c'est choquant, mais je crois que c'est plausible.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire un petit texte qui nous donnerait une idée, qui donnerait une idée aux auditeurs du portrait de Diana Figuero?
Je le lui avais dit plusieurs fois, j'avais respecté le désir de papa de conserver des choses et des documents. Mais je ne partageais pas son conservatisme. Il vivait beaucoup de souvenirs, surtout ceux des ancêtres, plus riches que les siens. Je pouvais comprendre sa vie à lui, si maussade, chômeur ayant tiré bon an mal an jusqu'à la retraite, seul, sans ma mère disparue et sans une autre femme, vivant comme un con, entre télé et vieilles lectures, survivant plutôt. Il se satisfaisait des exploits de sa mère et de son grand-père. Il survivait dans un monde de souvenirs, de restes, de documents, de bouquins, de photos. Chose qui ne m'intéressait pas. Peut-être aussi plein de confidences, de secrets, de mystères. C'est quoi la vie d'un père, d'un homme, d'un vieux? On est tous des inconnus. Je continue?
Non, je crois que ça donne un bon aperçu. Donc, du sentiment de Diana vis-à-vis de la génération précédente et vis-à-vis de son père. Et je crois qu'il y a même un endroit plus loin où elle rajoute « On croit les vieux sans intérêt et sans vie bon, », ce qui est très dur aussi. Donc, d'un côté, nous avons Diana, qui est une jeune, qui n'est pas du tout accrochée à son passé, qui... On l'apprend après dans l'histoire, elle a des circonstances atténuantes et puis que peut-être que par prémonition, elle sentait qu'il y avait des choses aussi peut-être douloureuses. Donc,
certainement, voilà. Certainement. C'est une des raisons de l'occultation de la mémoire chez ce genre de personnage, c'est justement le pressentiment que dans ce passé, il y a des choses brûlantes, des choses qui peuvent être difficiles à évoquer.
Alors, je précise aux auditeurs qu'effectivement, cette présomption, ce pressentiment, il est au centre du roman et que, chemin faisant, parcourant les chapitres, on sent que on assiste au fait que le couvercle sur le passé se lève et que ce passé n'est pas du tout anodin. Et c'est ça qui va déterminer, en grande partie, le changement de point de vue de Diana. Sur sa famille, sur la relation au passé, et c'est sans doute un élément primordial qui va contribuer à son évolution en tant que personne par rapport aux priorités et à l'importance à donner à la famille et surtout au fait de pouvoir s'appuyer sur le passé. Alors ce que j'aimerais bien aussi maintenant, c'est que vous nous donniez un petit aperçu, un portrait brossé de son... ex-compagnon qui est Albert. Donc précisons que Albert est à peu près une dizaine d'années de plus que Diana, que au moment où
une vingtaine même je crois
même, pratiquement oui, plus, oui. Que au moment où commence le roman, ils viennent de se séparer, mais que Albert est toujours proche de Diana, un peu son protecteur, il y a un aspect paternel, et qui revient de la part de Diana avec le besoin d'effectivement d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui veille un peu comme un père sur elle. Hein. C'est une relation partagée.
C'est Albert donc qui narre ici. Hein. Les filles ont tout de même fini par entendre qu'elles avaient besoin de moi. En fait, elles ont beau vouloir jouer les indépendantes et se payer le luxe de nous envoyer paître, ces moments d'humeur cachent qu'elles cherchent toutes plus ou moins un protecteur. Bien sûr, elles savent vivre seules. Elles ne se privent pas de le décliner à tous les cas et sur tous les tons. Pas besoin d'un macho. Et les lesbiennes élèvent leurs gosses ensemble. Mais bon, on ne se refait pas. Le monde d'un coup de cuillère à peau. Le partage des tâches est tellement ancré depuis des millénaires que les hommes attendent les femmes pour la maison et elles les attendent pour l'extérieur. À ne pas leur dire en face pour la paix des ménages, mais à savoir quand même. Sauf que tout cela peut changer. Quoi qu'il en fût, rappelé au bataillon, je dus reprendre ma voiture pour les rejoindre sur les coteaux, dans la villa paternelle. Et, munis de masques chirurgicaux et de bonnes doses de courage, nous avons investi en règle le grenier poussiéreux et surchauffé.
Voilà. Alors là, nous avons un portrait de Albert. Alors, différence de génération, et puis, je dirais, un couplet appuyé sur les relations hommes-femmes, le rôle. Donc, on voit une différence d'approche générationnelle, si bien qu'on se pose même un peu la question comment Diana et Albert ont pu être ensemble. Donc, ça titille le lecteur.
Et c'est puis, évoqué hein, oui, dans oui, le livre, la rencontre est évoquée.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je laisse ce plaisir de découverte aux auditeurs. Et donc, on a donc un aperçu des deux personnages principaux qui vont être amenés à reconsidérer leur position sur pas mal de choses par rapport à ce qu'ils vont vivre et par rapport à cette affaire-là. Alors, c'est très intéressant. Alors, le plus de votre roman, c'est qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés. Il y a en particulier le thème de la résistance à Toulouse. Alors, vous dites Toulouse était une boudoir pleine de collaborateurs et de résistants. Ça veut dire qu'il y avait une intense activité de part et d'autre. Et on voit dans le roman qu'il y avait des résistants, mais il y avait des collabos, effectivement, avec des conséquences très tangibles sur le déroulement de l'histoire. Et on n'en dira pas plus. Et on apprend l'importance, le rôle de l'hôpital Varsovie à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet hôpital fut si important ?
Oui, c'est très simple. Cet hôpital a été créé, on pourrait dire, à proprement parler, après la résistance, puisque quelques semaines seulement après la libération de Toulouse, une opération de tentative de reconquista par les Espagnols républicains de Reconquista de l'Espagne, par le Val d'Aran notamment, a été envisagée et déclenchée. Et pour soigner les éventuels blessés, a été créé l'hôpital Varsovie, avec des médecins espagnols émigrés. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas dire qu'il y a eu un rôle de Varsovie dans la résistance, mais il était composé pour l'essentiel de résistants, de républicains espagnols, et avec, bien sûr, des noms qu'on retrouve hein, entre la résistance et notamment le nom de Joseph Ducuin, dont on a fini par baptiser l'hôpital. Joseph Ducuin a été un grand résistant et à la fois il a été le repreneur de la direction de l'hôpital Varsovie après que fut déclenchée en 1950 une opération baptisée assez pittoresquement de Boléro Paprika, déclenchée par le ministère de l'Intérieur pour essayer de chasser tous les militants étrangers de France et notamment de Varsovie. Donc il fallait reprendre, c'est Joseph Ducuin avec quelques autres médecins français progressistes, car il faut considérer que aussi bien à l'hôpital Varsovie que dans la résistance quelques années auparavant, se retrouvaient au coude à coude, ça c'est connu, des gens d'obédience et de foi assez diverses, assez différentes. On a cité le rôle de l'Institut catholique dans la résistance, comme on cite bien sûr le rôle des communistes, des socialistes, etc.
Oui, et d'ailleurs, à cet égard, vous avez une formule dans le livre où vous dites « La libération, ce n'était pas une suite, mais une rupture violente avec des sauts et des sursauts. » Alors, voilà qui donne une image particulière et précise de ce qui s'est passé à Toulouse pendant ces périodes troublées. Alors, hélas, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais vous retrouverez, je m'adresse directement aux auditeurs ici, quelques pages au sujet de Toulouse et de l'Occitanie, quelques pages, je dirais, poétiques de description des endroits de Toulouse, de la Dorade, un petit topo là, très, très précis sur Pierre d'Assesa, vraiment que je recommande en dégustation à nos auditeurs, et toujours la référence à votre guide. Donc, on a fait un petit peu le tour de votre livre. Je voulais vous demander où se trouvent les tapisseries dont vous parlez à l'heure actuelle.
Alors bon, on pourrait laisser le suspense, mais je veux bien.
Si vous voulez laisser le suspense, simplement
c'est,
on peut dire...
C'est dit à la fin du livre.
Voilà, c'est dit à la fin du livre. Donc, si vous voulez savoir où se trouvent ces tapisseries qui avaient disparu, ces tapisseries de Saint-Saëns, voilà, de Saint-Saëns, vous lisez le livre et vous le saurez tout.
Exactement. Par contre, il y en a une qui est connue et qu'on peut voir chaque fois qu'on se rend à l'hôtel d'Assesa, dans la salle Clément Cizor. Il y a la fameuse tapisserie Le Verseau, duquel il est beaucoup question dans ce livre, on peut la contempler.
Exactement. Donc nous recommandons à nos auditeurs d'aller la contempler. Merci Francis Pornon pour votre ouvrage Spoliation, paru en 2023 chez TDO Éditions. Merci beaucoup aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Christophe Aubry, à la technique, toujours fidèle. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et qu'elle est disponible sur toutes les plateformes en podcast. Toutes les semaines, Parole d'auteur est diffusée le mercredi à 10h, suivie d'une première rediffusion le vendredi à 19h et d'une seconde le samedi à 17h. Au revoir à tous et merci.